Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
J'aimerais vous inviter à aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, verset 1er. En tant qu'évangéliste, c'est mon chapitre préféré. J'aime toute la parole de Dieu, hein. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais je vous avoue que j'ai réellement un coup de cœur pour ce chapitre 15 de l'évangile de Luc, parce que nous y découvrons l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, le travail du Saint-Esprit, le désir de Dieu de sauver le perdu, de sauver le pécheur, de ramener la brebis égarée, de bouleverser les événements, les circonstances, de balayer partout pour retrouver la pièce de monnaie qui est perdue. Et ce matin, on va s'attacher particulièrement à ce qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Mais j'aimerais en introduction lire le verset premier qui est assez significatif. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et c'est un verset important, parce que finalement, voilà que, et après on trouve ces magnifiques histoires, et vous connaissez, hein, l'histoire de cette brebis perdue que Jésus va, enfin que ce berger va aller rechercher, l'histoire de cette femme qui va perdre une drachme, une pièce de monnaie, qui va retourner toute la maison jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et ça nous parle du travail du Saint-Esprit qui veut nous révéler la personne de Jésus, puis révéler la valeur réelle que nous avons, la valeur de notre âme, la valeur de notre vie. Et puis enfin la parabole du fils prodigue, on le lira. Mais ce qui m'interpelle dans le début de ce chapitre, c'est l'auditoire. Moi, ce matin, j'ai un bel auditoire. Vous êtes tous beaux, vous êtes magnifiques, vous êtes souriants, vous avez mis vos plus beaux vêtements, vous sentez bon, c'est merveilleux. Et puis vous êtes des gens formidables, vous croyez en Dieu, vous marchez avec Dieu, et tout va bien, il n'y a jamais une seule mauvaise parole qui sort de votre bouche. Dès que vous parlez, vous chantez, vous êtes formidables. Mais regardez l'auditoire qu'avait Jésus ce jour-là. C'était des publicains et des gens de mauvaise vie. Il y avait là dans l'auditoire des pécheurs, des hommes qui trompaient leurs femmes, des femmes qui trompaient leurs maris. Il y avait là des jeunes qui devaient se vautrer dans le péché. Et puis des moins jeunes, hein, je dis les jeunes, mais il y a aussi les vieillards qui parfois se vautrent dans le péché. Et voilà donc un auditoire de pauvres gens, des pécheurs, des gens, la Bible le dit, de mauvaise vie. Mais ce qui m'interpelle, c'est que tous ces gens-là se sont approchés de Jésus pour l'entendre. Et je remarque que à ces gens-là, Jésus ne va pas va pas les mépriser, quoi. Jésus va prendre du temps et Jésus va leur parler de son amour, de l'amour de Dieu, de l'amour du ciel, de l'amour du berger, va leur ouvrir la porte du salut, du pardon, de la miséricorde. Après tout, face à un tel auditoire, Jésus aurait pu les incendier, les condamner, aurait pu les écraser, les laminer, les blesser, les détruire. Mais Jésus leur ouvre la porte et leur apporte une parole de consolation. C'est la parole de l'évangile. Dieu est le Dieu, j'aime le dire, du encore une fois. Et je peux, et qui que vous soyez dans cet auditoire, encore une fois, j'ai la possibilité de m'approcher de Dieu. Encore une fois, j'ai la possibilité, même si j'ai commis des bêtises, même si je vis dans le péché, il y a cette possibilité gratuite de la part de Dieu de m'approcher de Dieu humblement, de baisser la tête et de saisir la main de Dieu et de repartir à nouveau, de repartir sur le chemin de la vie, de repartir sur le chemin de la bénédiction, de revenir sur le chemin de la guérison. Et vous savez pourquoi les publicains, les gens de mauvaise vie, là, ils s'étaient rassemblés? Parce qu'ils savaient que dans cette ville, à ce moment-là, il y avait un homme qui ne les rejetterait pas, c'est Jésus. Peut-être les religieux les rejetteraient, peut-être les gens, entre guillemets, de bonne vie les auraient rejetés, mais ils savaient qu'il y avait là Jésus. Et Jésus n'a jamais rejeté personne. Jésus les a accueillis. J'aime beaucoup ce verset, parce que rien que ce premier verset nous démontre, s'il le fallait encore, nous démontre l'amour de Dieu. Et le fait que Dieu est le Dieu du encore une fois. Et là, vous dites un grand amen. Dieu est le Dieu du encore une fois. Il est ce Dieu qui aime le brigand. pas à cause du fait qu'il commette, hein, vous comprenez bien, des péchés, mais parce qu'il aime. Dieu, on le sait tous, Dieu a en horreur le péché. Dieu est saint, et c'est pour ça que le message de la croix, c'est un message horrible. Nous avons hier, et puis aujourd'hui aussi, Marie a chanté, il l'a fait, hier Marie a chanté ses mains, on a passé un PowerPoint, et il y avait, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film il y a quelques années, La Passion du Christ. Il y en a qui l'ont vu ? Bon, et vous avez remarqué, La Passion du Christ, c'est un film horrible. C'est horrible ce film. Moi, je l'ai vu une fois et j'hésite à le regarder une deuxième fois tellement ça m'a marqué. Mais finalement, quand on lit les évangiles, ben c'est ça, hein. Le message de la croix, c'est horrible. On voit un homme qui est fouetté, on lui met une couronne d'épines et comme si ça suffisait pas, on le cloue. Des vrais clous dans ses mains, des clous dans ses pieds, parfois on essaye d'imaginer, c'est horrible, c'est une scène de sang, d'horreur, de cris, de douleur, de souffrance. La croix, c'est un message terrible, mais en même temps, la croix nous dévoile toute la condamnation que Jésus a pris afin que nous recevions le pardon. Et c'est ce pardon dont Jésus parle, la porte de la grâce est ouverte. À qui que ce soit, il suffit de passer par la repentance et la foi. Et remarquez bien que le premier sauvé, c'est ce brigand, un brigand, encore un. Un brigand crucifié avec Jésus le même jour, oui ou non ? Un brigand à qui Jésus dira, quand même fallait oser, à qui Jésus dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Vous imaginez quand Jésus a dit ça ? Moi j'imagine que dans la foule, ça a dû quand même murmurer pas mal. Hein. Ça a dû certainement aussi grincer des dents du côté des religieux. Parce que là, ils devaient se dire, mais pour qui il se prend ce gars-là ? Qu'est-ce qu'il va dire à un brigand ? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'évangile. C'est la grâce de Dieu. Le sang de Jésus a coulé pour nous ouvrir la porte de la grâce. Et n'oublions pas, amis, frères et sœurs, n'oublions jamais que nous ne sommes pas mieux que ce brigand crucifié à la croix du calvaire. Nous ne sommes pas mieux. Et parfois, nous chrétiens, on l'oublie ça. On oublie où Jésus est venu nous chercher. On oublie le prix de notre salut. On oublie le prix que Jésus a payé pour inscrire notre nom dans le livre de vie. Parce qu'enfin, même si nous passions toute notre vie, je veux dire avec même une vie hyper consacrée, eh bien, ça n'enlèverait jamais les péchés que nous avons commis dans le passé. Oui ou non ? Nous étions des brigands. Et qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui, l'enfant ? C'est quoi un enfant de Dieu ? C'est un brigand racheté. Voilà, on a été racheté par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Alors moi, je comprends que les publicains et les gens de mauvaise vie étaient là et s'approchaient de Jésus parce qu'ils savaient que Jésus ne les rejetterait pas. Ils savaient qu'ils entendraient une parole qui pourrait changer leur vie. Vous voyez qu'on aille dans le verset 11, donc parabole du fils prodigue. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. On va arrêter là pour le moment la lecture. Et là, il se passe ce que j'appelle le processus de la déchéance spirituelle. Voilà un garçon qui arrive comme c'est finalement le désir de chacun d'entre nous et quand on a des enfants, il arrive à un âge où nos enfants, et c'est normal, ont envie de voler de leurs propres ailes. Oui ou non ? Il y a des parents d'ados ici ? Parce qu'on veut prier pour les martyrs ? Bon. Non, on aime les ados. Bon, mais les parents le savent, hein. Il arrive à un moment donné où nos jeunes, ben, on a du mal à les retenir à la maison, on aimerait bien encore les coucouder, on aimerait bien les garder, mais on sent que, bon, ils leur poussent comme des épaules, comme des ailes, et c'est normal, ils veulent faire, et puis après tout, nous, on a tous aussi fait notre vie. Oui ? Nous aussi, et heureusement, et béni soit Dieu. Et c'est bon, et Dieu a créé les choses comme ça. Dieu nous a créés aussi avec des projets, avec l'envie de faire des choses. Et il me semble même, quand on n'a plus envie de rien faire, on est déjà mort en réalité. Mais donc Dieu met des projets dans nos cœurs, et finalement, il n'y a rien de choquant à ce que ce garçon dise à un moment donné, bon ben voilà, je voudrais faire quelque chose. Là où il commet une erreur, c'est de partir de la maison de son père. Et là, dans ce contexte, on comprend que c'est sortir de la volonté de Dieu. Je veux faire ma vie, certes, mais je veux la faire pas dans le domaine de la foi. Je tourne le dos à l'Église, je tourne le dos à Dieu, je tourne le dos à la Bible. Je veux faire ma vie, je veux me débrouiller. Et immanquablement, lorsqu'on ne marche pas avec Dieu, on se retrouve, lorsqu'on quitte le pays de Dieu, hein, lorsqu'on quitte la maison du Père, c'est le titre du message de ce matin, lorsqu'on quitte la maison du Père, on se retrouve immanquablement dans le pays où règne la famine. Immanquablement. Et avez-vous remarqué, il part les poches pleines et il revient les poches vides. Le pays sans Dieu, c'est le pays du besoin. C'est le pays du manque, c'est le pays de l'insatisfaction. Pourtant, il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a de la débauche. Et derrière le mot débauche, on pourrait dire il y a du plaisir, il y a de la joie, ou il y a des joies, il y a du sexe, il y a de l'argent, il y a un certain nombre de choses. Et voilà que, immanquablement, à un moment donné, il se retrouve dans un état de manque. Il est insatisfait. Et il va se retrouver au service du maître des cochons. Si on lui avait posé la question à ce garçon, lorsqu'il est sorti de la maison, si on lui avait posé la question, qu'est-ce que tu veux faire? Alors peut-être qu'il nous aurait dit, moi je vais être une star internationale, ou alors, ouais, moi je veux fonder mon entreprise, ou alors, je sais pas, j'imagine qu'il est parti quand même avec des projets dans sa tête, oui ou non? Ça me paraît logique, ça me paraît évident. Je l'imagine mal, ce garçon, nous dire, moi, mon but dans la vie, c'est de garder les cochons. Ah ouais, ça c'est mon trip. Ça c'est mon truc, depuis que je suis gamin, je rêve de vivre avec les cochons, j'ai été à l'école des cochons, je me suis formé pour être gardien de cochons, et puis alors mon plat préféré, c'est la carouge. Carouge farcie, carouge cuite, carouge crue, la carouge. Eh non. Mais qu'il le veuille ou pas, il se retrouve au service du maître des cochons. Vous savez qui c'est le maître des cochons? C'est le diable. Le diable. Quand on ne marche pas avec Dieu, c'est le diable qui nous fait marcher. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est la réalité. Tant que je n'ai pas remis ma vie entre les mains de Dieu, c'est le diable qui me mène par le bout du nez. C'est le diable qui a une main mise. Et ce garçon, qu'il le veuille ou pas, et on peut supposer qu'il le voulait pas, surtout qu'on est là dans un contexte juif quand même, hein, que Jésus parle quand même à des juifs. Et vous savez que pour un juif, il n'y a rien de pire qu'un cochon. C'est impur, fallait même pas y toucher, fallait même pas dire le mot cochon. Rien que de dire le mot, le gars il était sale. Et là il est au service du maître des cochons, il vit avec les cochons, il mange la nourriture des cochons. Mais la nourriture des cochons, c'est cette nourriture que le diable donne aux hommes. Une nourriture qui nous fait ressembler aux cochons. Vous savez que dans la langue française, un cochon c'est aussi une connotation morale. Vivre comme un cochon, vivre dans la débauche. Et voilà que ce garçon, eh bien voilà, se trouve dans le pays du manque. C'est donc la déchéance spirituelle. Il s'éloigne de Dieu, il perd tout. Verset 17. Et là, on est dans le processus là du retour vers Dieu. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Nous avons là le processus du retour vers Dieu. C'est cet homme qui s'est éloigné de la maison du Père, image de la maison de Dieu, image de la personne de Dieu, eh bien, va trouver le chemin pour revenir vers Dieu. Et tout commence par la repentance. La première étape pour revenir vers Dieu, c'est la repentance. C'est-à-dire cette reconnaissance que j'ai échoué. J'ai péché. Le fils ne cherche pas d'excuses. Il fait pas de détour. Il cherche pas de raccourci non plus. Il dit pas c'est de la faute à mon père, c'est de la faute à ma mère. D'ailleurs, on sait pas où elle est, la mère. C'est de la faute à mon frère, parce que quand on lit un peu plus loin, on s'aperçoit que le frère, bon, c'est pas un rigolo. Bon, bref. Mais il ne cherche pas d'excuses. Il dit c'est moi. J'ai péché. Avez-vous remarqué que dans la vie, c'est dur de dire parfois c'est de ma faute? À tel point que dans les entreprises, quand il y a des problèmes, il y a cette spécialité, c'est on ouvre le parapluie. Vous connaissez ça? On ouvre le parapluie. C'est pas de ma faute. Ah, c'est pas moi. Non, non, je n'ai pas signé. La nouvelle note, ce n'est pas moi. Ce n'est pas de ma faute. C'est jamais de la faute à personne. Mais là, le fils ne cherche pas d'excuses. J'ai péché. C'est-à-dire, c'est moi. J'ai pris la mauvaise direction. J'ai échoué. Et à partir de ce moment-là, Dieu peut commencer à agir dans un cœur. Tant qu'on ne passe pas par la repentance, c'est ça la repentance, hein, c'est réaliser j'ai échoué. C'est pas de la faute de la société, c'est pas de la faute des circonstances, c'est ben voilà, j'ai fait un mauvais choix. J'ai pas marché avec Dieu, j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit, j'ai pas écouté les conseils de la parole de Dieu, j'ai péché. Deuxième, et donc nous voyons ce processus, on voit ce père qui va s'approcher près de son fils, et puis on voit tous ces éléments là, verset 22, à porter la plus belle robe, ça nous parle de la justification. Il vient, ce fils, il sent mauvais, il est sale, il est souillé, etc. Et le père va lui remettre sa plus belle robe, c'est la justification, c'est-à-dire que Dieu nous déclare juste au travers de l'œuvre de Jésus à la croix. Dieu me déclare juste. C'est pas nous qui avons nettoyé nos tâches, mais Jésus nous revêt, je la reçois par la foi, je reçois la grâce de Dieu, la belle robe, la plus belle robe. Mettez-nous un anneau au doigt, cet anneau nous parle de l'alliance, une alliance que Dieu contracte à mon égard. En gros, cela signifie, je marche avec Dieu, je m'engage de marcher avec Dieu, Dieu s'engage à marcher avec moi. Je lui confie toute ma vie, notez bien, toute ma vie, et Dieu s'engage à me protéger, à me garder, à me tenir la main. Tant que je tiens la main de Dieu, bah Dieu me tient la main. Voilà, c'est ça l'alliance. Hein, pour les hommes et les femmes mariés, on a un anneau à notre doigt qui, c'est quoi? C'est le symbole, hein, de l'engagement qu'on a à l'égard de la conjointe ou du conjoint, et puis le conjoint ou la conjointe a aussi un anneau qui reste réciproquement, c'est ce qu'on appelle une alliance, un engagement. Je m'engage à être fidèle, je m'engage à t'aimer, je m'engage à vivre avec toi, etc. D'accord? C'est l'alliance, eh bien c'est la même chose d'une certaine manière avec Dieu. Aussi des souliers aux pieds. Les souliers aux pieds à cette époque, il faut savoir que les esclaves n'avaient pas de souliers. Et le fait qu'il, donc ça veut dire qu'il là, il est revenu pieds nus. Il a perdu sa dignité d'enfant de la maison, de fils de la maison, son statut. Et voilà que le père lui remet des souliers aux pieds. Ça voulait dire, voilà, c'est le fils de la maison. Et partout où le fils se promènerait dans la propriété, tout le monde saurait, c'est le fils de la maison. J'ai accès aux bénédictions de Dieu, aux promesses de Dieu. Non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que nous sommes ses enfants. Et c'est ça que ça voulait dire, les souliers aux pieds. Il a cette identité, c'est le fils de la maison. C'est le fils du patron. Alors j'imagine que partout où il va, les portes s'ouvrent. C'est le fils du patron. C'est le fils du propriétaire. Donc il a accès à tout. Ça, ce sont les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Ça, bien évidemment, ça nous parle de l'œuvre de Jésus à la croix du calvaire. Jésus qui est mort à notre place pour le pardon de nos péchés. Mangeons c'est la foi, c'est de s'approprier les promesses de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, je la crois, ça s'imprime dans mon cœur et réjouissons-nous, ce sont les conséquences. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de cette atmosphère de la maison, de qu'est-ce qui a fait que cette maison a permis au fils perdu de revenir dans la maison. Parce qu'après tout, c'est notre défi à nous, Église. Comment faire pour que l'Église devienne un lieu qui permette aux perdus d'expérimenter la grâce de Dieu. Et plus que ça, de faire de ce lieu un lieu attirant pour le perdu. Comment faire? Et nous voyons, en tout cas je vois dans ce texte au moins quatre principes à développer pour faire de l'Église cette maison du Père, cette maison où le Fils perdu, et il y a à Valence et dans la région, comme à Limoges, comme en France, comme dans le monde entier, des tas de fils et de filles perdus. Dans votre famille, dans vos amis, des collègues de travail, dans ce quartier, des tas de fils et de filles qui ont tout dépensé, qui sont dans le besoin, dans le manque, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et comment faire pour que cette église soit un lieu qui permette aux perdus de revenir, de venir, d'être attirés. La première qualité à développer dans cette maison, dans la maison du Père, c'est de développer l'état d'esprit du Père de la maison. Dieu cherche au milieu de nous des pères et des mères. J'aimerais qu'on lise ensemble dans le livre des Juges, chapitre 5, verset 7. Et c'est une femme, Déborah, qui va dire ceci. J'attends que le verset apparaisse à l'écran. Juges, voilà, chapitre 5, verset 7. Voici ce que dit Déborah. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Amen. Je vous avoue qu'à la première lecture, quand je suis tombé sur ce verset, bon, j'espère que les dames ne m'en voudront pas, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on lui demande à elle? On lui a rien demandé à Déborah. D'abord, c'est une femme. Je m'excuse. Bon. Ben, attendez, remettez-vous dans le contexte aussi. À l'époque, elles n'avaient pas le droit de vote non plus. Hein. Et là, voilà qui dit, et en plus qu'elle dit, les chefs sont sans force. Et on pourrait comprendre, quand même, elle juge, elle condamne. De quoi elle se permet de dire ça? Mais j'ai remarqué qu'il y a une grande différence entre ceux qui condamnent et ceux qui comprennent la situation et qui veulent aider. La première catégorie, les gens qui condamnent, si elle était dans cette catégorie de gens qui condamnent, ouais, les chefs c'est des nuls, ils ont rien compris, moi j'ai tout compris. Mais j'ai remarqué, moi, que les gens qui ont tout compris, ils ne se lèvent jamais. Ah, ça va pas dans l'église, mais le gars on le voit jamais. Ouais, mais il n'y a pas d'amour, et puis c'est le il est même pas capable de pardonner à son voisin. Mais il va vous exhorter, hein, c'est pas un problème, hein. Ouais, ça prie pas assez, mais lui, on l'a jamais entendu prier. Ouais, et puis l'évangélisation, il est jamais là le dimanche après-midi. Parfois, entre le dimanche matin et le dimanche après-midi, on a l'impression que l'église a été enlevée. Extraordinaire, ça. Alors, il y a cette première catégorie, gens qui condamnent, mais elle n'en fait pas partie. Elle n'en fait pas partie pour la bonne et simple raison qu'elle dit « je me suis levé ». Et elle ne dit pas « je vais attendre que les autres se lèvent ». D'abord, elle ne condamne pas les chefs, elle voit, c'est la réalité, elle dit les chefs sont sans force. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi les chefs sont sans force? Mais parce que le peuple est sans force. Les chefs ne peuvent pas faire grand chose avec rien. Envoyer un général, vous, à la guerre sans armée, il va y avoir un problème. Et c'était ça la réalité à l'époque. Le peuple était sans force, le peuple s'éloignait de Dieu, le peuple était léger, vivait dans la tiédeur, et Déborah, à un moment donné, elle dit « mais ça va pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond, on est le peuple de Dieu, on est normalement, Dieu est avec nous, Dieu marche devant nous, et normalement on devrait aller de conquête en conquête, et là on vit dans la défaite, on vit dans la peur, on vit dans la crainte. » Et elle réalise et dit à un moment donné « mais les chefs sont sans force, ça va pas. » Et au lieu de pointer le doigt, elle dit « bah du coup je me lève. » Et j'aime beaucoup comment elle se lève parce qu'elle développe l'état d'esprit d'une mère. Et Dieu cherche au milieu de nous des pères et des mères. Pas des chefs. Il y a une différence entre un chef, je suis pas en train de vous parler là de responsable, de leader, de trucs, de machin. Je suis en train de tout simplement vous parler de cet état d'esprit du père ou de la mère. Déborah, elle ne revendiquait pas d'être le chef. Elle dit, je me lève comme une mère, c'est-à-dire, il y a des mamans ici. Allez, levez-vous, tiens, les mamans et les grands-mamans. Allez, levez-vous, ça va vous faire du bien aux jambes d'abord. Allez, regardez les mamans. Regardez les mamans, les grands-mamans, je sais pas s'il y a des futures mamans. Regardez-les. Non, bah, restez debout. Bon, regardez-les. Inoffensives, gentilles, souriantes, paisibles, douces. Mais écoutez-moi bien, là je préviens tout le monde. Non, restez debout les mamans. Mais je vous avertis que si vous touchez un seul cheveu de leur bambin, c'est plus une maman que vous avez en face de vous, c'est une tueuse. Allez, vous pouvez reprendre place, que Dieu vous bénisse. C'est pas vrai les mamans? C'est pas vrai qu'on peut pas toucher, leur faire du mal à vos enfants? Ben encore heureux, sinon vous seriez pas des mamans normales. Et puis les papas c'est pareil. On veut pas, on touche pas, moi, on n'approche pas mes filles. Et alors ma femme encore pire. Ah ouais, là, c'est le gars, il est... Vous avez un tas de cendres après. Et c'est normal. La maman, il y a quelque chose en elle de... Comment vous dire ça? Allez, j'ose le dire, d'irrationnel, quoi. Allez, c'est pas raisonnable, mais je défends mon enfant. Comme les parents, on se bat pour nos enfants. Est-ce que, par exemple, si notre enfant, là, qui commence à marcher, il met la main dans le feu, on va dire, oh, ben, c'est pas grave, il va apprendre que le feu, ça brûle? Je me souviens, il y a quelques années, on était en vacances. Il faisait beau, il faisait chaud, il n'y avait pas de vent, c'était pas Valence. Bon, non. C'était, bon. Il faisait beau, il faisait chaud, il n'y avait pas de vent, juste le petit vent qui... Bon, et on était au bord de la piscine, l'eau chauffée, tout. En pleine action. Sieste. D'accord? On était avec des membres de ma famille, il y avait mon beau-frère qui était là, et il y avait sa petite là la petite qui commençait à marcher. Et à un moment donné, la petite, elle s'approche de la piscine et elle tombe dans l'eau. Et mon beau-frère était à côté de moi, je l'avais jamais vu réagir aussi vite. Il était d'un bond debout et il l'avait repris par la peau du cou. Vous voyez, le père qui défend, qui protège. Bien voyez-vous, Dieu cherche des pères et des mères au milieu de nous. Pas des chefs. Des pères et des mères qui se battent. Tout à l'heure, Marie nous a fait chanter, vous savez, bénis ton église. Et à un moment donné, on a chanté, bénis mon église. Et j'aime beaucoup quand on dit mon église, bien sûr, c'est l'église du Seigneur, on est tous d'accord. Mais l'église de Valence, pour vous, c'est votre église. L'église de Limoges, c'est mon église. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous allez dire de vos enfants, ce sont mes enfants. Ça ne veut pas dire qu'on va les emprisonner, que ce sont nos esclaves, mais ce sont nos enfants dans le sens, on va se battre pour eux, c'est ma responsabilité. Eh bien, osez dire de cette église, c'est mon église. Osez dire, c'est mon église. Osez dire des enfants qui sont dans les écoles du dimanche, ce sont nos enfants, sont mes enfants. Osez le dire. Osez prendre vos responsabilités. Osez dire des jeunes, ce sont mes jeunes. Osez dire des musiciens, des chantres, au lieu de dire constamment ils chantent trop fort, osez dire ce sont nos musiciens. Vous comprenez? Osez dire du pasteur, de son épouse, osez dire du pasteur, c'est mon pasteur. Des responsables, des prédicateurs, je sais pas comment ça fonctionne, des anciens, osez dire ce sont mes anciens. Le frère, c'est mon ancien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je prie pour lui. Je combats pour lui. Et osez dire des gens de Valence qui sont perdus, ce sont nos fils et filles prodigues, sont les perdus que Dieu nous confie d'une certaine manière. C'est mon église. Dieu cherche des pères et des mères. Mais Déborah s'est pas levée en disant, bon allez, pousse-toi de là, Barak, pousse-toi de là. Pas du tout. Elle dit, moi je me lève comme une mère. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi. Je sais pas ce que je vais faire, mais je me lève comme une mère. Elle refuse l'inacceptable. Elle refuse la défaite, elle refuse l'échec. Comme on refuse, nous, parents chrétiens, que nos enfants s'éloignent de Dieu. Et s'ils s'éloignent de Dieu, on refuse de baisser les bras et on continue à prier pour eux. Et je comprenez bien, je veux pas condamner les parents, je sais qu'il y a certainement ici des parents qui souffrent, ou des grands-parents qui souffrent de voir leurs enfants, leurs petits-enfants qui vivent loin de Dieu. Mais ne les abandonnez jamais. On continue à prier, parce que ça reste nos enfants. Ça reste nos petits-enfants. Et tant qu'on prie, à chaque fois qu'on prie pour un enfant, c'est comme si on disait au diable, tu ne l'auras pas. Tu n'auras pas le dernier mot dans sa vie, parce que moi je réclame qu'il revienne à Dieu. C'est mon enfant. Eh bien, osez dire la même chose dans l'église. Et vous savez, où est-ce qu'on retrouve les pères et les mères? Dans les réunions de prière. On les retrouve pour se battre, pour combattre, pour se battre pour nos enfants, pour se battre pour nos activités. Pour se battre, il y a les responsables de jeunesse. Tiens, levez-vous un peu les responsables de jeunesse, les responsables d'ados, les moniteurs, les monitrices, là. Levez-vous un peu les prédicateurs, levez-vous un peu, là. Il n'y a personne? Ah ben là, c'est pas facile non plus, hein. Il va pas être heureux, votre pasteur, de dire, ben, il n'y a personne. Non, ben levez-vous, restez debout. Faut prier pour les responsables. Priez. Faut prier. Ce sont... Et puis, restez debout. Ah, mais vous êtes terrible à Valence, hein, c'est... Allons, restez debout. Et il faut prier. Et pas simplement dire, ouais, ils s'occupent des enfants, ou leur... Ouais, c'est pas la garderie. Enfin, il y a la garderie, mais ce sont nos enfants. Ils se forment, ils se consacrent, ils sont qualifiés, ils sont appelés à Dieu pour ça. Osez les encourager de temps en temps. C'est quand même beau ce travail au sein des enfants. Et puis j'oublie les équipes d'entretien, ceux qui font le ménage. Ma première responsabilité, moi, dans l'église, avant justement d'aller avec Dominique Moreau, ma première responsabilité dans l'église, hautement spirituelle, c'était ranger les chaises. Et je me souviens, à l'époque, il y avait un pasteur, Serge Renaud, qui m'avait dit, pour m'encourager, quoi, qui m'avait dit, écoute, Bruno, quand tu ranges les chaises, t'as qu'à prier pour les chaises. Enfin, prier pour les chaises, bon. Attendez. Allez pas me dire que, bon, prier pour les gens qui allaient s'asseoir sur les chaises. D'accord, vous aviez compris quand même. Vous aviez compris. Bon. Du coup, j'ai pris cette parole au sérieux. Alors, ça change tout dans le service. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'après tout, j'aurais pu ranger les chaises en râlant, quoi. Dire, ouais, quand même, le gars, oh, qu'est-ce que je fais? Moi, je range les chaises. Il voit pas que je suis l'homme de réveil de France? Il voit pas que moi, Non, je plaisante. Mais vous comprenez, j'aurais pu faire ce service en disant, ouais, quand même. Surtout qu'à l'époque, il y avait déjà un feu qui brûlait en moi, vous voyez, pour témoigner, pour évangéliser. Bon, alors ranger des chaises. Remarquez, il y a des avantages à s'occuper d'une église de chaises, c'est qu'il n'y a pas de dispute. Hein? Les chaises, elles sont calmes, elles se disputent. Bon. Mais quand ce pasteur m'a dit, prie pour les chaises, alors vous comprenez que le service a pris une autre valeur. Et je priais sérieusement pour chaque chaise. Et quand arrivait la réunion, le culte, et surtout la réunion d'évangélisation du dimanche après-midi où tout le monde était là, et que le prédicateur prêchait, eh bien moi je priais pour mes chaises. J'ai dit, il faut que tu touches le gars qui est assis sur ma chaise. D'accord? Et quand je voyais des mains qui se levaient, des gens qui s'approchaient, et que je voyais le pasteur ou l'évangéliste qui priait pour les gens, puis je voyais que les cœurs étaient touchés, ben moi je me félicitais. Comprenez bien ce que je veux dire. Bien sûr, on est conscient que le prédicateur, il prêche de tout son cœur, etc. Mais quand je voyais du résultat, je me disais, mais c'est normal que le gars, il était touché, il était assis sur ma chaise. Voyez? Dieu cherche des pères et des mères. Il y en a qui regardent des matchs de football à la télévision? Ou des matchs de sport? Ou du sport? Levez la main, il n'y a pas de honte. Bon. Avez-vous remarqué que quand on regarde à la télévision, ils vont jamais assez vite? C'est vrai, quoi, au prix qu'ils sont payés. Oui, vous êtes payés! Tu l'as pas vu, le ballon! Ouais, mais c'est fou, ça! Donne des millions, le gars, il met même pas dedans! Bon. Mais, quand vous êtes sur le terrain, moi j'ai expérimenté, là c'est drôle, on doit être dans un autre espace-temps, parce que là, ça va plus vite que je pensais. Puis finalement, les deux mi-temps, ça fait une mi-temps de trop. Vous voyez? Eh bien, c'est pareil dans l'église. Il y a ceux qui sont assis dans les gradins, qui regardent les autres faire, puis il y a ceux qui sont sur le terrain, essayer de marquer des buts. Dieu cherche des acteurs. Enfin, acteurs dans le sens noble, hein, action. Dieu cherche des pères et des mères. Des hommes, des femmes qui se lèvent, des hommes, des femmes qui prient, des hommes, des femmes qui osent prier pour leur église, des hommes, des femmes qui prient pour les perdus, des hommes, des femmes qui sont en réunion d'évangélisation, des hommes, des femmes qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Pas forcément des gens qui sont dans tel ou tel service, hein. Mais en tout cas, des hommes, des femmes qui vont prier pour les responsables. Est-ce que vous priez pour les moniteurs, les monitrices? Est-ce que vous priez pour les responsables de la garderie? Est-ce que vous priez pour les messages que les prédicateurs donnent? Est-ce que vous... Bon, voyez? Est-ce que vous priez pour les chaises? Enfin, les gens qui s'assoiront sur les chaises. Voyez? Dieu cherche des pères et des mères. Deuxième qualité, c'est le partage. Je vais aller vite, hein. Le partage. Cet homme, ce père, il a donné la part de bien là, qui revenait à son fils, il a donné. Il a jamais retrouvé l'argent, hein. D'accord? Mais il a retrouvé son fils. Je remarque que c'est une qualité à développer aussi la libéralité. Dans le domaine de l'évangélisation, par exemple, on pourrait dire, comme dans le domaine du social, puisque aussi Dominique Moreau a bien connu hein, le domaine du social à Reims notamment, et je me souviens que c'était un domaine ingrat, hein, parce que c'est beaucoup d'investissements, ça veut dire des locaux, de l'argent, des gens qui se consacrent, je me souviens, et quand on regarde les résultats, parfois on est déçu, on se dit quand même, bon. Mais je remarque que dans le domaine de l'évangélisation, c'est la même chose. Parfois, on sème, et puis, c'est quoi le résultat? Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est quoi le retour sur investissement? Il y a une mission d'évangélisation qui a coûté cher, qui s'est passée il y a 2000 ans à Golgotha. Et ce jour-là, il y a eu combien de conversions? Pourtant, on avait tout là. On avait le super prédicateur, et le super message en chair et en os. Combien de conversions? Deux. Allez, on a doublé. Le brigand et le centenier romain. Il est où le trésorier, là? Trésorier. Faut prier aussi pour lui, hein. Trésorier, il regarde, il dit, bon, c'est bon, deux conversions, ça va faire des dîmes, des offrandes, c'est bon. C'est normal. Il pense pas qu'à ça, mais bon, ça fait partie de ses responsabilités. Seulement manque de Paul, brigand il meurt. Va être difficile de lui demander sa carte de membre. Il s'entonie romain, comme tout officier, certainement qu'il reste quelques années, puis il s'en va. Bref, le retour sur investissement, il n'est pas terrible. Mais si Jésus n'était pas allé à la croix, on ne serait pas là. Vous savez, mon rêve, moi, c'est que quand le Seigneur nous enlèvera, ou que j'irai à la rencontre du Seigneur en mourant ou en étant enlevé comme les croyants, je puisse marcher dans les allées du ciel, je ne sais pas comment ce sera, et puis que je puisse rencontrer des hommes, des femmes qui diront « Je suis là parce que tu as prié pour moi. Je suis là parce que ce jour-là, tu as donné de l'argent et puis ça, ils ont fait quelque chose, un effort d'évangile. Je suis là parce que tu as fait quelque chose. » Dieu cherche des hommes et des femmes qui donnent pour l'œuvre de Dieu. Vous voulez vous enrichir? Donnez. Vous voulez rester pauvre? Donnez rien. Ça va? On veut donner à l'œuvre de Dieu. Parce que moi, je veux passer l'éternité à regarder, et comprenez bien, j'espère en tout cas, enfin Dieu me connaît, hein, j'espère qu'il n'y a pas de présomption de ma part ou d'orgueil, mais quand même, j'aimerais me balader dans le ciel en regardant les hommes et des femmes à qui bah, peut-être j'aurais été, vous savez, un témoin, un élément, un maillon de la chaîne qui a permis à ce gars-là de passer l'éternité au ciel. Vous comprenez ce que je veux dire? Par ma prière, par une action, par de l'argent que j'aurais donné, enfin, etc. Pour l'œuvre de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui partagent. La troisième qualité, c'est la persévérance. Cet homme, ce père, il voit son fils de loin. De loin. Ça veut dire que toujours il regardait dans la même direction. Ça veut dire que jamais il n'a baissé les bras. Ça veut dire que jamais il ne l'a abandonné, son fils, en disant « Bon, c'est fini, on n'a plus qu'un fils. » Moi, je suis convaincu que le père, quand il rentrait chez lui, il devait dire à sa femme « Rajoute une assiette parce qu'on ne sait jamais, le gamin, il va peut-être revenir. » La persévérance. La persévérance, c'est cette faculté de continuer à espérer. Et c'est un défi pour nous, de continuer à espérer. Même quand l'environnement nous dit tout le contraire, mais de continuer à espérer. De continuer à croire. Vous savez qu'il y a cette question que pose Jésus à un moment donné qui est quand même terrible. Le Fils de l'homme, quand il viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Pourtant, on n'a jamais eu autant de belles églises, je veux dire, dans le monde, hein, au niveau évangélique, c'est formidable. Alors ça fait drôle cette question, mais le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi? Ah, il trouvera des belles églises. Et ici, à Valence, comme nous à Limoges, on est bénis. On a une belle église comme vous. Là, on est bénis vraiment de Dieu. On bénit Dieu quand on regarde. Et on ne peut pas s'empêcher de penser aux anciens, aux frères, aux pasteurs, et puis les responsables, et puis les chrétiens qui ont prié dans cette région, dans cette ville, pour qu'on soit ici. Moi, je n'oublie pas que si je peux prêcher ici, c'est parce que certains ont donné de leur sueur, de leur sang, de leur prière, se sont consacrés pour qu'on soit là. Dites amen. C'est la réalité. Des frères et sœurs qui ne vous connaissent pas, qui sont morts avant, il y a des années de cela, ont prié pour qu'à Valence l'œuvre de Dieu avance. Des hommes, des femmes ont donné littéralement leur vie pour que le message soit annoncé à Valence. Et puis partout, ils ont persévéré. Et c'est un fléau aujourd'hui, je trouve, il y a trop d'enfants de Dieu qui n'y croient plus. Je trouve que c'est un fléau. Trop d'enfants de Dieu qui ne prient plus parce qu'ils ne croient plus. Trop d'enfants de Dieu qui laissent la parole de Dieu fermée parce que finalement ça pénètre plus. Mais ce matin, je veux me laisser renouveler par l'Esprit de Dieu. Il y a peut-être des bras qui sont fatigués, mais je veux relever les bras. Et c'est Dieu qui va relever mes bras. Amen. La persévérance. Et puis la quatrième qualité, c'est la passion. La passion. Dieu réclame des hommes et des femmes passionnés. Passionnés. Le problème n'est pas de savoir si nous sommes ou non passionnés, parce qu'on est tous passionnés. Le problème, c'est pourquoi. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais pasteur dans une petite église, dans une petite ville, et puis j'avais un cas. Parfois, il y a des cas dans les églises. J'avais un cas. Un jeune, il priait jamais. Il était converti, baptisé d'eau et tout. Il priait jamais, il ouvrait jamais la bouche. Je savais même pas qu'il avait des dents. S'il avait des dents. Oui, jamais. Bon. Et puis un jour, le culte se passe, je prêche, tout ça, et puis à la fin du culte, je vois mon gars, là, dans le hall, je le vois qui gesticule, qui parle. Je dis, ça y est, il a des dents. Il parle. Et je commence à me dire, ça y est, le gars, je me suis dit, ça y est, je vais écrire une biographie sur moi-même, le gars, là, c'est miraculeux, quoi. Et je me suis approché, vraiment, j'étais content, je dis, ça y est, le gars, il a été touché. Et je m'approche, et puis il avait un livre dans les mains. Et il parlait à quelqu'un. Je dis, c'est pas possible, il évangélise en plus. Il partage la Bible, il parle. Et je m'approche, et vous savez ce que c'était ce livre? Un livre de voitures de sport. Bon, moi j'ai rien contre les voitures de sport, mais j'ai compris. J'ai compris ce jour-là la passion de ce gars. C'était pas Dieu. J'ai compris ce qu'il faisait vivre. J'ai compris ce qu'il faisait rire, ce qu'il faisait sourire, son centre d'intérêt. Les voitures de sport. Voyez-vous, on est tous passionnés pour quelque chose. Et le diable est suffisamment malin et le monde suffisamment, comment dirais-je, attirant pour focaliser notre attention sur des tas de choses. On est tous des gens extrêmement occupés. Quelle place reste-t-il à Dieu? Moi j'ai remarqué, alors au risque de vous choquer, mais tant pis, nous on repart ce soir. Hein, mais j'ai remarqué quand même quelque chose de paradoxal parfois, c'est qu'on est capable d'ouvrir la bouche pour dire n'importe quoi, et on est incapable d'ouvrir la bouche pour prier. C'est quand même extraordinaire, ça. Pourtant, avec la même bouche, on sera capable de raconter n'importe quoi, moi le premier, hein. Et puis alors, quand il s'agit de louer Dieu, mais oh, je suis un enfant de Dieu ou quoi? Comprenez? Elle est où, ma passion? Il est où ce feu qui brûle dans mon cœur? Paul pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. La passion. Et si cette passion est perdue, j'ai besoin de revenir auprès de Dieu.